RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Lors de la dernière chronique, nous étions partis en Grèce avec Alicia qui nous présentait le dispositif du woofing qui permet de voyager à travers le monde et de découvrir de nouvelles cultures. Ce dispositif fait écho au programme Erasmus+, qu'on ne présente plus maintenant, mais comme vous le savez, il offre une bourse financière aux étudiants pour vivre une expérience en Europe. Et c'est ce qu'a fait Edith Foultier, étudiante en lettres et sciences politiques à l'université de Poitiers et qui est partie étudier pendant 5 mois à l'université de Nicosie à Chypre. Et aujourd'hui, nous l'accueillons pour en savoir plus sur son expérience. Bonjour Edith, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter et rappeler aux auditeurs où es-tu partie exactement ?
Donc, je suis Edith Foultier, j'ai 20 ans et je suis partie dans le cadre d'une mobilité obligatoire au semestre 4 à Nicosie, donc à Chypre, dans la partie grecque de l'île. Et j'étais donc à l'université publique de Nicosie, l'université de Chypre.
Et donc comme on l'a déjà annoncé, moi dans mon introduction, et comme tu viens de nous le dire, t'es partie avec le programme Erasmus pendant ton cursus d'école, qui était donc, comme tu l'as dit, un échange obligatoire. Mais pourquoi cette destination? Est-ce que t'as pu la choisir? Comment ça s'est passé?
Alors initialement, j'étais intéressée pour partir au Moyen-Orient, parce que c'était vraiment dans ce domaine d'études que je voulais m'orienter, et notamment dans la géopolitique du Moyen-Orient. Mais comme on peut s'en douter, au vu des différents conflits dans la région et de l'instabilité, c'était pas réellement possible de faire un échange là-bas. Donc je me suis rabattue sur Chypre, car ça restait quand même très proche du Moyen-Orient. Et il y a quand même des influences qui sont très présentes, notamment dans l'architecture, dans le mode de vie ou encore dans l'alimentation. Et j'ai surtout fait ce choix en étant consciente que je restais dans l'Union européenne et c'était vraiment quelque chose de très important pour une première mobilité.
Très bien. Et maintenant qu'on sait pourquoi, quelles ont été les démarches? Comment t'as pu monter? Est-ce que t'as dû monter un dossier, faire différents vœux? Comment ça s'est passé pour les démarches?
Alors d'abord, j'ai dû choisir parmi plusieurs destinations qui m'étaient proposées. J'ai rédigé des lettres de motivation en anglais et en français. Puis j'ai rendu mon dossier aux relations internationales de mon université, qui m'a donné une réponse quelques mois plus tard. À partir de là, j'ai dû choisir mes cours, mon emploi du temps pour créer mon contrat d'études. J'ai aussi rempli tout ce qui était demande de bourse, donc notamment la demande de bourse des transports et la bourse Erasmus, sachant qu'elle diffère en fonction des destinations. Et une fois sur place, on doit refaire notre contrat d'études, on doit envoyer des attestations d'arrivée et de départ.
Et justement, tu parles de contrat d'études. Au niveau des cours, comment cela se passait au niveau des heures, des matières? Est-ce que tu avais des équivalences avec les matières en France ou au contraire, c'était différent des cours en France?
Alors, il faut savoir que j'avais beaucoup moins d'heures qu'en France, puisque mes plus grosses semaines étaient à 9 heures de cours par semaine, je précise. Au niveau des matières, j'ai pas tellement ressenti de différence. J'avais toujours de l'histoire, de l'économie ou encore des lettres. C'est plus la manière d'enseigner qui m'a vraiment surprise, parce qu'il faut savoir qu'on est 15 par classe, alors que dans ma promo, on est 60. On n'est pas forcément aligné derrière une table et un bureau. On n'a pas besoin de prendre de notes, parce qu'on a tout sur les PowerPoint. Les profs sont vraiment très à l'écoute des étudiants. Et on peut vraiment les contacter quand on veut, n'importe quand et à n'importe quelle heure. Et aussi au niveau des horaires de cours, c'est vraiment très différent parce que, par exemple, on n'avait pas cours le matin, uniquement l'après-midi ou le soir. Et au niveau des examens, c'est aussi très différent puisqu'on les passe soit tôt le matin, soit tard le soir. Parce que faut savoir que c'est une île où les températures montent très vite. Donc par exemple, quand j'ai passé mes partiels mi-mai, on était déjà aux alentours de 35 et 40 degrés.
En effet. Et du coup, à part ces difficultés-là peut-être, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés une fois là-bas et comment tu les aurais surmontées, donc en plus de la chaleur si c'en était une?
En soi, j'en ai pas rencontré beaucoup. J'ai eu des problèmes avec ma bourse Erasmus parce que l'université de Chypre voulait pas signer ma demande de bourse. Mais bon, après plusieurs envois de mails, ça a fini par se résoudre. Sinon, sur des difficultés plus personnelles, je dirais qu'il y a eu un vrai choc culturel et le mal du pays, parce que c'est quand même très différent, mais sinon j'en ai pas tellement rencontré.
Et justement au niveau culturel et au niveau même des langues, les cours ils étaient en anglais ou tu pouvais avoir la possibilité d'avoir aussi des cours en grec ou quelques éléments, puisqu'on rappelle, la Chypre est divisée en deux, avec une partie grecque et une partie turque. Et la langue, est-ce qu'elle représentait justement une barrière, si c'était en anglais ou en grec, pour toi, ou comme on entend souvent que la langue peut être une barrière justement pour partir à l'étranger, ou au contraire, c'était pas forcément un obstacle?
Donc j'avais la moitié de mes cours en français et l'autre en grec. Okay. Et j'ai l'autre en anglais, pardon, pas du tout en grec, parce que je parle pas grec. Et pour suivre des cours en grec, il fallait payer en plus, donc j'ai choisi de pas le faire. Pour ce qui était de la langue, ça n'a pas tellement représenté une barrière, ou du moins pas pour moi. Au contraire, c'était plutôt quelque chose qui nous unissait, et ça nous permettait vraiment de nous comprendre, parce qu'en soi, on venait tous des quatre coins de l'Europe, et on n'avait pas la même langue maternelle. Donc en fait, c'était plutôt un élément qui nous réunissait, que ce soit pour... que ce soit pour le français, pour les cours que j'avais en français, mais surtout l'anglais, en fait.
Et voyager, c'est aussi rencontrer de nouvelles cultures, comme tu as déjà pu commencer à l'évoquer. Et tu parlais aussi d'un choc culturel. Comment tu as vécu cette interculturalité-là? Est-ce que tu as pu rencontrer justement des Chypriotes, des personnes qui vivent vraiment à Chypre, ou même d'autres étudiants internationaux? Et comment ça s'est passé, ces rencontres, au niveau des différences?
Alors, en soi, j'étais jamais partie aussi loin de la France, et c'est vrai que Chypre, c'est vraiment un pays très différent, dans le sens où on est déjà sur un pays divisé en deux, donc avec la partie sud où j'ai vécu, qui est la République chypriote, qui est en place depuis 1960, et donc la partie turque, qui occupe l'île depuis 1974, et on ressent vraiment la tension entre ces deux peuples. On croise les casques bleus dans la rue, les convois de l'ONU aussi, il y a une zone tampon qui sépare l'île et notamment Nicosie. Il y a aussi toute une partie de l'île qui n'a pas forcément été reconstruite, donc on voit encore des impacts de balles des différentes guerres dans les murs, et ça fait vraiment bizarre, surtout quand on vient d'un pays comme la France. Au niveau du climat aussi, c'était vraiment très étrange, et ça a renforcé ce choc culturel, puisque en hiver, il fait chaud la journée et très froid la nuit. En janvier, quand je suis arrivée, il faisait quelque chose comme 20 ou 25 la journée, et la nuit on descendait à 6 degrés, sachant qu'il n'y a pas forcément le chauffage dans les logements, donc c'était un peu rude. Mais après, on s'y habitue et c'est très sympa. Et ensuite, j'ai rencontré beaucoup de personnes par le programme Erasmus, forcément, puisque je vivais dans une colocation d'Erasmus, dans un immeuble d'Erasmus. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens par le biais d'associations, d'ONG, et en discutant dans les commerces ou dans les rues ou à la fac, pour ce qui est des Chypriotes. Et c'est par ces conversations notamment que j'ai vraiment pu en apprendre plus sur l'île et sur la situation entre les Grecs et les Turcs.
Ok, trop bien. Et justement, une expérience Erasmus et de mobilité en général, c'est un événement assez marquant, d'ailleurs comme on peut l'entendre dans ton témoignage, et elle peut apporter beaucoup, que ça soit pour notre vie professionnelle ou personnelle. Toi, qu'est-ce que tu en retiendrais de cette expérience?
C'est drôle, mais vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était les démarches administratives qui me paraissaient extrêmement stressante avant de partir, et j'en ai eu tellement à faire que maintenant c'est vraiment quelque chose de banal, donc ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais au niveau plus personnel, je dirais que ça m'a vraiment appris à pas me laisser impressionner par une langue, même si je continue forcément à faire des fautes. Erasmus, ça permet vraiment de gagner en confiance et de pouvoir mieux s'exprimer, et ça permet aussi de nous connaître un peu mieux et d'apprendre vraiment à nous écouter, parce qu'on est seul dans un nouveau pays où il y a personne, donc forcément on est obligé de se suivre.
Et quel conseil tu pourrais donner justement pour des étudiants ou même d'autres personnes qui aimeraient partir à l'étranger, notamment avec le programme Erasmus, qui seraient justement tentés par cette expérience?
Allez-y. Non, mais plus sérieusement, faut quand même savoir que ça a un coût. Même si on a une bourse, elle couvre pas forcément toutes nos dépenses. Donc il faut prendre ça en considération. Il faut pas non plus attendre le moment où on est à 100% prêt, parce qu'il arrive jamais. Faut rien espérer de l'Erasmus, parce que c'est comme ça qu'on est le plus déçu. Faut pas non plus penser que c'est pas parce qu'on fait telle ou telle activité qu'on a raté ou qu'on a réussi notre Erasmus. Déjà, on le fait et c'est énorme, et que c'est vraiment une très très belle expérience. Donc pour ceux qui sont tentés, allez-y et profitez bien.
Et est-ce que tu serais tentée, toi, pour de nouvelles expériences, ou est-ce que t'as d'autres pays justement en tête ou d'autres manières?
Oui, j'aimerais bien refaire un master, et c'est encore des pays méditerranéens, mais j'aimerais en refaire un soit en Italie, parce que j'apprends l'italien aussi, soit au Portugal, parce que c'est un pays qui m'attire énormément.
Et donc plutôt pour des études pendant ton master, comme tu as fait là dans une autre université, ou des stages ou...
Plutôt pour des études dans d'autres universités, mais après, si j'ai des stages, je suis pas contre non plus.
Oui, puisque il faut savoir aussi que Erasmus, ça marche aussi pour les stages, donc c'est bon à savoir aussi pour découvrir toutes ces possibilités-là pour partir à l'étranger. Eh bien, je te remercie beaucoup, Edith, pour le temps que tu nous as accordé pour ce témoignage.
Merci.
Et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique qui sera la dernière de l'année.